Audiolib présente Les enfants du guet de Mary Higgins Clark et Alafair Burke. Traduit de l'anglais par Anne Damour et Amélie Juste Thomas. Lu par Valérie Lemaître. Pour William, Louis, Frédéric, Emma, Catherine, Alexander et Stella, les arrière-petits-enfants tant aimés de la reine du suspense. Dans la maison du guet. Voulant échapper au terrible secret de son passé, Nancy a changé de nom, d'apparence et de couleur de cheveux avant de quitter la côte ouest pour s'installer à Cape Cod. Elle y a épousé Ray Eldredge, dans l'espoir de mener enfin une vie paisible. 7 ans de bonheur se sont écoulés dans sa nouvelle maison avec son mari et leurs 2 enfants, Michael et Missy. Mais un matin, paraît dans le journal local un article sur un procès pour meurtre qui a fait couler beaucoup d'encre en Californie quelques années plus tôt. Sur la photo, la jeune femme impliquée ressemble étrangement à Nancy. Le même jour, Michael et Missy disparaissent. Le passé et le présent deviennent alors inexorablement liés. Nancy a-t-elle perdu la tête à la lecture de l'article qui la replonge brutalement dans un passé qu'elle a désespérément tenté de fuir? C'est ce que redoute la police. Ce que tous redoutent cependant, c'est que Michael et Missy sont aux mains du prédateur qui a tué les 2 premiers enfants de Nancy. Cet homme n'est autre que son premier mari, présumé mort, Carl Harmon. Il est de retour et n'a qu'un but, assouvir ses perversions sur les enfants de Nancy avant de les tuer. Heureusement, par un concours de circonstances inespérées, le kidnappeur est démasqué et, cette fois, il n'échappera pas à la mort. Prologue. Un vent du soir, chargé d'humidité, se glissait par les joints usés des vitres. À peine quelques années plus tôt, l'idée d'un courant d'air dans cette pièce, sa chambre d'enfant, eût été impensable. Attentive aux moindres détails, sa mère aurait aussitôt réagi à la plus petite imperfection de la maison, surtout si celle-ci affectait le confort d'une personne dormant sous son toit. Et son père, agent immobilier réputé de Cape Cod, était devenu un bricoleur de premier ordre au cours des années, offrant volontiers ses services à ses clients. Pourtant, il n'y avait pas que les joints des fenêtres qui s'étaient fissurés dans la famille Eldredge. Incapable de trouver le sommeil, Mélissa sortit de son lit, enfila ses pantoufles et alla silencieusement à la fenêtre, soucieuse de ne réveiller personne dans la maison. Après avoir fermé les rideaux, elle prit une couverture en haut de l'armoire, l'étendit sur le lit et entra un mémo dans son téléphone portable. Trouver quelqu'un pour vérifier l'état de la maison avant de repartir pour New York, au cas où elle parviendrait à convaincre sa mère de vendre. Elle allait reposer son téléphone sur la table de nuit quand elle reçut un texto. « Tu es couchée ?» Elle sourit. Elle était heureuse à l'idée d'entendre tous les jours la voix réconfortante de Charlie. « Pas encore, » répondit-elle. Tous les deux voyageaient beaucoup pour leur travail, mais ils ne manquaient jamais de prendre de ses nouvelles le matin au réveil et le soir avant de se coucher. Pas d'Annie Croche cette fois-ci. Il faisait allusion à la stupide petite querelle de la veille entre frères et sœurs, comme l'avait qualifié sa mère avec optimisme. Son frère Mike était saisonnier, et c'était la première fois qu'il revenait aux États-Unis depuis l'enterrement. Mélissa s'était rendue à Cape Cod pour l'accueillir. « Tout le monde s'est bien comporté. Nous sommes allés ensemble sur la tombe. » Située sur la route qui menait à l'église Notre-Dame du Cap, l'ancien cimetière était le motif du tableau accroché au-dessus du piano dans le salon. C'était l'une des nombreuses œuvres d'art qui ornaient les murs couleur crème de la maison. Quand sa mère avait peint ce triste alignement de pierres tombales, plus de 40 ans auparavant, elle n'imaginait sans doute pas qu'elle y enterrerait un jour son mari. Mélissa revit Mike cet après-midi-là devant la tombe de leur père, serrant la main de leur mère et la sienne.